With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com, yes!
3, 2, 1.
Ready for takeoff.
Let's go!
La bulle immobilière. Chaque semaine, on parle de divers sujets pour vous tenir bien informé sur tout ce qui touche l'immobilier. Des experts, des discussions, des questions et des réponses. Avec votre animateur, Jeff Morin, courtier immobilier commercial et multilogement. Et Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires. Pour le meilleur show en immobilier sur la rive sud et sur la rive nord. Un contenu détaillé, c'est là que ça commence. La bulle immobilière. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier.
969 FM.
Vous étiez à l'écoute de La Sauce. Bienvenue à notre 10e saison de la bulle immobilière à CJMD. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de co-animer l'émission avec mon favori, un revenant, effectivement, Kevin Filion. Salut, comment ça va?
Ça va bien, toi, Jeff?
Ça va super bien. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation et d'être revenu dans nos nouveaux locaux. Si t'étais jamais venu faire un enregistrement ici.
Depuis que je suis parti avec mon gros salaire, t'as un budget de fou.
Exact.
Non, c'est très cool. Très beau studio.
Puis, écoute, Kevin, juste pour mettre en place, t'es un gars qui est spécialisé en investissement immobilier. Tu fais aussi des projets d'optimisation. T'aides aussi des promoteurs entrepreneurs à revoir un peu les valeurs de leurs immeubles. Parle-moi un peu de Proclif, puis de...
Plan de match
Renault, excuse-moi.
Yes, nouvellement. Mais en fait, on regarde surtout les projets d'optimisation, projets de rénovation. Fait qu'on travaille entre autres avec les courtiers au niveau résidentiel pour tout ce qui est correctif de bâtiment, amélioration, bigénération, ajout d'étage et tout. Puis dans l'investissement immobilier, on va regarder vraiment le plan d'optimisation. Fait que comme on se parlait hors d'onde, si on achète par exemple un immeuble Yose puis qu'on veut réaménager les logements, regarder c'est quoi la faisabilité technique, à quel budget, dans quel ordre, c'est quoi l'échéancier. Fait que toute la poutine d'optimisation, comme j'aime dire, ben c'est ce qu'on regarde en fait avec les investisseurs.
Vraiment cool. Puis ça se peut que notre équipe te contacte pour un mandat privé. Fait que ça va être vraiment cool. On est en train de faire nos premières analyses. Puis tu sais, on se donne chacun des petits devoirs pour avancer dans le projet. Puis j'ai bien hâte qu'on puisse s'asseoir avec toi puis qu'on puisse revoir ce projet d'analyse-là. Fait qu'on va te revenir un jeudi matin là-dessus. Puis aujourd'hui, j'ai l'honneur. Pour vrai, là, Kevin, là, quand j'ai fait la pré-entrevue, j'étais en voiture, je prenais des notes. Puis tu sais, j'avais des frissons. J'étais comme, hey, ça va être vraiment le fun. On va parler de données, on va parler de data, on va parler de commercial, on va parler d'industriel. Puis je pense qu'on a quelqu'un qui est vraiment ultra passionné, tellement qu'il porte maintenant deux chapeaux. Un chapeau sur l'évaluation immobilière, mais aussi un chapeau sur le service de données. Puis ça, je trouve ça vraiment cool parce que, oui, on en a rencontré des évaluateurs, puis ils ont chacun leur méthode, leur technique, leurs outils, etc. Puis là, maintenant, bien, on parle à la personne qui propose des outils aux évaluateurs. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Aujourd'hui, on reçoit Christian Pierre Côté. Merci d'être ici.
Merci. Des frissons. Je vais essayer d'être à la hauteur.
Ah non, mais écoute.
On part toujours ça avec la barre.
Ouais,
très,
la barre est très haute.
Mais tu sais, en même temps, moi, je suis un gars de chiffres, je suis un gars de données. J'aime ça, moi, que, tu sais, je suis très cartésien dans mes affaires. Fait que, tu sais, moi, quelqu'un qui me parle de chiffres, très cartésien dans sa méthode de travail, moi, ça me parle énormément. Puis je me sens sécurisé. Fait que, tu sais, pour vrai, je trouve ça le fun. Les courtiers immobiliers sont un peu plus fling-flang par rapport à leur méthode et leur façon de travailler. Puis tu sais, moi, je suis une personne qui a besoin d'une rigueur dans mon travail pour arriver à ça. Puis j'adorais beaucoup la pré-entrevue. Fait que j'ai hâte de délivrer tout ce contenu-là à nos auditeurs. Christian Pierre, vous portez deux chapeaux. De quelle entreprise? De où ça a parti? C'est quoi votre parcours par rapport à...
Ben, si on remonte au début, moi, je suis quelqu'un qui a une formation en lettres, premièrement. Quand je suis revenu à Québec, j'ai fait une autre formation en administration à l'Université Laval. Et j'ai découvert, à travers des investissements personnels en immobilier, la profession d'évaluateur. Et j'ai commencé à travailler pour des boîtes nationales, ou en fait d'ici à Québec et éventuellement nationales, pour débuté ma pratique en évaluation. À un certain moment donné, tout ça a mené à fonder mon propre cabinet. Donc, il y a une quinzaine d'années qu'on a fondé côté conseil immobilier à la base. Marc-André est devenu associé il y a à peu près 4-5 ans. Donc, maintenant, c'est rendu côté Mercier conseil immobilier. Donc, on est des évaluateurs, on fait de l'évaluation commerciale industrielle en opposition à ceux qui vont faire de l'unifamilial, du plex. Nous, on ne fait pas vraiment de ça. On commence dans l'immobilier d'investissement qu'on aime délimiter par le résidentiel 12 logements et plus, le commercial, l'industriel, les terrains destinés à l'implantation de ce genre de projet-là. Et on a tout un volet études de marché. Donc, on peut commencer très tôt dans le développement d'un projet en estimant à qui on va s'adresser, quel prix, qu'est-ce qu'on devrait leur proposer, l'analyse de la clientèle qui va être intéressée par les projets qu'on développe en fonction des usages. On peut estimer combien on devrait faire de commercial, combien de bureaux, combien de...
Puis ça, c'est cool, logements. Par exemple.
Mais on le voit juste dans le nom conseil immobilier, non évaluateur agréé.
C'est l'objectif. C'est plus large. Exact. C'est un peu plus large que la simple valeur qu'on va donner à la fin. Ça en fait partie, la valorisation. Il faut toujours l'avoir en tête hein, quand on estime qu'est-ce qu'on devrait construire. Puis c'est un peu ça l'objectif. Donc, on commence là. On se rend jusqu'à la valorisation des terrains. Tu sais, on a des évaluateurs agréés nécessairement à l'interne. Oui. On a aussi des gens qui sont en gestion de projet, des gens qui sont en urbanisme à l'interne. Okay. Puis là, de plus en plus, on a des programmeurs. On a des gens, des mathématiciens à l'intérieur parce que, comme tu disais, on s'est tourné de plus en plus vers l'analyse de la donnée. Tu sais, au départ, quand on a fondé le cabinet, on a analysé où on pourrait prendre la source de données et on en est venu vite à la conclusion qu'il y avait un seul fournisseur, puis on ne nommera pas tout le monde sait c'est qui fournit une donnée qui est principalement basée sur le résidentiel à la base, qui peut servir à du commercial, mais il faut mâcher tout ça puis travailler cette donnée-là. Fait que nous autres, on a dit, si on fonde une entreprise basée sur un seul fournisseur de données, ça représente un risque. On était juste à Québec à ce moment-là. Il y a un volume de transactions qui est gérable. Fait qu'on a dit, on va partir notre propre façon de compiler cette donnée-là. Ensuite de ça, on a acheté la Côte-Nord. On a commencé à travailler beaucoup plus dans l'est du Québec. C'était encore gérable. En 2018, on a tombé à Montréal, on a ouvert un bureau à Montréal, puis là, on s'est rendu compte que le volume de transactions est vraiment impressionnant dans l'ouest de la province. T'sais, il y a 80 % des transactions qui sont faites à l'ouest de Drummondville-Trois-Rivières.
Ah oui, quand même!
Donc, seulement 20 % dans l'est. En volume, puis en nombre.
En nombre de transactions.
Ouais, c'est à peu près dans
les mêmes. C'est quand même fou, là!
Oui, c'est vraiment impressionnant. Montréal, la grande région de Montréal, on inclut Gatineau là-dedans, on inclut aussi l'Estrie. Donc, cette partie-là du Québec représente vraiment un gros volume d'affaires. Puis là, ben, on a eu un problème parce qu'on n'était pas assez pour traiter toute cette information-là. Fait qu'il a fallu investir dans nos systèmes. Et il y a eu un événement, on a peut-être été chanceux, mais je discutais avec Philippe Bélanger, qui était un professeur à l'Université Laval. Lui, il a fait un doctorat en économétrie immobilière. Donc, quand je parlais de mathématicien, là, ben, c'est lui que je cible. Et là, Philippe, il revenait au Québec et il me dit, garde, je pense que l'économétrie immobilière, lui, il a écrit des papiers là-dessus. Il a gagné des prix pour ses écrits dans des journaux scientifiques qui traitent de ça. Il dit, je suis capable de le faire. Puis au Québec, je pense qu'on est rendu là. Fait que là, il m'a dit, j'aimerais ça regarder la possibilité avec toi parce que t'es le seul qui compile de la donnée de la manière dont j'ai besoin qu'on le fasse. Bon, c'est pas parfait, hein? C'était embryonnaire là, à cette époque-là. T'sais, on remonte à 2018-2020. Mais il s'est embarqué avec nous autres, il a regardé ce qu'on faisait, puis il a réussi à optimiser tout ça.
Donc, puis après ça, il vous a donné un roadmap aussi sur maintenant j'ai besoin de ces données-là. Ouais. Comptabilise-moi ces données-là, puis on va rendre ta base de données encore plus puissante. Là. C'est malade. Là.
C'est ça. En fait, tout l'objectif, c'est de compiler les transactions. Après ça, c'est d'augmenter l'information pour chacune de ces transactions-là. Autant au niveau des variables intrinsèques que des externalités. Donc, c'est important de savoir combien ça mesure, quelle hauteur ça a, les caractéristiques physiques intrinsèques à l'immeuble. Mais, et puis là, je ne rentrerai pas dans le gros détail, là, mais selon les types d'échantillons, les types d'analyses que tu fais, les externalités de la propriété représentent entre 50 et 85 de la valeur. Quand on dit location, location, ouais. location, là, ben, c'est de ça veut dire qu'à l'intérieur d'un environnement, d'un aire de marché, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est les phénomènes socio-économiques qui ont de l'impact sur la valeur de ta propriété. La même propriété, dans un environnement différent, à toute chose étant égale par ailleurs, au niveau des internalités, ben, les externalités vont avoir un impact sur la valeur. Ça veut dire que tu vas vendre plus de chaussures parce que tu rencontres, t'as plus de clients, que tu vas louer tes bureaux plus ou moins cher parce que tu as plus de demandes. Ben, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, l'objectif premier en intégrant Philippe avec nous autres, sa première commande, les premières directives ont été, il faut augmenter cette donnée-là, la classer pour être capable de la comparer entre elles de façon
performante,
intelligente. Là, ouais.
C'est cool parce que on se dit souvent c'est du bois, c'est de la brique, l'immobilier, c'est très brut, mais en réalité, c'est... Il y a plein de couches derrière ça. On s'imagine quasiment que c'est Breaking Bad, puis vous êtes dans un petit laboratoire.
Ah ouais, exact.
Développer ça. Mais c'est ça, pareil, la donnée, c'est comme le next level d'immobilier.
Ben,
c'est
tu veux notre mantra dans cette business-là? Parce que là, en 2020, on l'a sorti de côté conseil immobilier. Puis comme on n'est pas très original, on l'a appelé côté Mercier service de données. Le mantra dans ça, c'est si deux évaluateurs avec une donnée comparables sont supposés arriver à la même valeur, ben, il n'y a pas de raison pour laquelle une machine n'y arriverait pas.
Ah oui.
La limite qu'on a en tant qu'individu, qu'humain, ne s'applique pas à la machine. Quand un évaluateur compare à 2, 3, 5, 10 propriétés, ben, nous autres, en mathématiques, là, on va en comparer avec 20 000 propriétés. Là, je ne parle, ouais. parle pas du résidentiel, là, on est vraiment dans l'immobilier d'investissement, mais à l'intérieur de l'immobilier d'investissement, on va être capable de faire des clusters, des regroupements quand on a vraiment un grand volume de ventes. Fait que ça prend du volume de données augmentées.
Puis c'était un des points qu'on avait parlé en pré-entrevue où ce que tu sais, les comparables, un évaluateur agréé va prendre, puis là, tu sais, peut-être tu pourras me corriger, mais généralement, ils vont prendre entre 3 et 5 comparables puis on parle de résidentiel pour venir donner certaines valeurs. Puis tu sais, il y en a qui peuvent avoir des ratios plus bas, des ratios plus hauts, puis tu sais, selon qui commande, des fois, il peut avoir une variante sur la valeur du prix. Tu sais, c'est pas rare que j'ai déjà vu qu'un vendeur qui refinance, les valeurs sont plus élevées, qu'une institution financière, lorsque la personne donne 20 %, ben, le rapport d'évaluation est compressé. Puis, tu sais, un acheteur, souvent, on va avoir une valeur plutôt médiane. Par contre, ça, c'est mon opinion personnelle. J'engage personne ici autre que moi. Mais j'ai déjà...
Il y a une petite notion de subjectif, c'est sûr. C'est sûr, c'est normal. C'est de la
donnée. Moi, j'ai jamais vu ça.
Exact. Puis, tu sais,
mais il faut pas oublier que ce qu'on voit dans le rapport, pas un pâle-reflet, mais c'est un résumé de ce que l'évaluateur doit faire. L'évaluateur, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est regarder le secteur, regarder un ensemble de propriétés. Je peux pas parler dans le résidentiel parce que je connais
non,
mais dans le commercial, tu sais, si j'ai évalué un garage mécanique puis je suis à Laval, je vais prendre, tu sais, j'ai peut-être 40 garages mécaniques sur l'île Jésus et je vais, ensuite de ça, sélectionner les données qui me révèlent à mon avis, le marché. Mais c'est subjectif. T'sais, c'est un humain qui le fait. C'est par rapport à ses paramètres qui va le faire.
Dans les expérience. Évaluations que je parlais, c'est que moi, je prenais 30 comparables. Puis, je trouvais ça intéressant parce que je te disais, moi, je prends 6 comparables expirés, 12 comparables actifs, puis 12 comparables vendus. Puis moi, ça me donne 4 valeurs. Puis là, ouais. Il me disait, ouais, mais pourquoi tu prends des expirés? Mais j'ai dit, écoute, moi, pour moi, c'est une valeur qui est importante dans le résidentiel pour que les gens comprennent que oui, il y a un prix rêvé. Mais tous les prix rêvés qui ont été essayés sur le marché n'ont pas été vendus. Fait que, tu sais, je le mets déjà en perspective avec mes datas. Mais en ayant 6 comparables juste pour les expirer, ben, tu sais, j'augmente ma probabilité puis j'augmente la performance de mes analyses. Fait qu'en prenant 12 actifs, ben là, on arrivait plus dans des prix idéaux parce que, tu sais, si il était affiché au bon prix, il serait déjà vendu, ces maisons-là. Ouais. Puis après ça, ben, on a le prix d'affichage avant de se vendre puis on a le prix vendu. Fait que c'est plus qu'on va arriver entre les deux, meilleur va être notre performance sur la vente puis de créer un réel intérêt sur la propriété. Puis si on teste le marché dans un prix d'affichage, on va réussir à vendre, mais beaucoup plus long que si on prend la bonne décision d'afficher right on market. T'sais, moi, c'est vraiment comme ça que j'oriente beaucoup mes clients. Puis, il y a toujours une question de mise en contexte. T'sais, dans le résidentiel, il y a les odeurs, il y a l'entretien, il y a beaucoup d'autres facteurs.
Les motifs.
Exact.
La couleur, l'orientation du soleil.
Le soleil, la piscine, pas de piscine. D'autres, ils vont mettre des valeurs par rapport à ça, puis d'autres non. Fait que la mise en contexte des successions, des ventes rapides, une personne qui a besoin d'argent, tu sais. Fait que si on prend un comparable d'un contexte qui a fait en sorte, puis tu sais, si on prend trois comparables, puis il y a deux contextes particuliers qui font en sorte que ces maisons-là ou ces propriétés-là se sont vendues moins chères, ben on vient fausser la vraie valeur de notre propriété qui n'a pas ce contexte-là. Puis moi, qu'est-ce que j'adore, c'est que vous avez tellement de data que même si il y a des contextes différents dans chacun des éléments, la loi de la moyenne puis de la médiane va toujours ramener plus proche.
Au-delà de ça, le contexte doit toujours être paramétré. Si tu fais une analyse de vente rapide, il faut que ce soit des ventes rapides. Si tu fais une analyse de vente dans un contexte normal, il faut que tu gardes des analyses de vente normales. Dans l'exemple que tu donnes, c'est intéressant parce que tu te sers des données pour expliquer à ton client que, regarde, ceux-là, ils l'ont mis en vente à ce prix-là, mais c'est pas vendu, c'est expiré. Donc, c'est peut-être une limite supérieure, puis ça va peut-être tout nous faire perdre du temps. Mais c'est un type de valeur, si tu veux, là, dans ce sens-là. Nous autres, quand on rentre dans de l'analyse de valeur marchande, exemple, pour un portefeuille, ben on va considérer tout, parce qu'en économétrie, tu rentres tout dedans, mais ça va te l'indiquer, tes ventes rapides, la dépréciation est de 15 % exemple, tu sais, pour tel type d'immeuble, etc. Mais oui, ça prend une masse de données pour pouvoir... Puis après ça, ça prend une capacité d'interpréter les résultats que ça traduise ce que tu cherches, en réalité.
C'est ça que la machine, à un moment donné, c'est le fun qu'il y a un humain qui embarque derrière. Mais tu disais aussi tantôt, c'est le volume. Moi, par exemple, j'ai fait deux projets en Beauce où une maison de chambre assez creux, puis un projet de mini-entrepôt. Mais là, souvent, l'évaluateur, il fallait qu'il sorte et qu'il aille chercher des comparables peut-être un peu trop loin ou un peu
ça,
moins comparables.
Ça, c'est super intéressant. J'ai donné une conférence là-dessus la semaine dernière. La localisation, hein, tu sais, puis j'ai pas trouvé de définition encore. Si t'en as une, tu me l'enverras. Mais grosso modo, on essaye de rester proche du sujet parce que, par définition, ça devrait être le même contexte socio-économique.
Ouais.
Mais j'expliquais que la notion de distance en mathématiques, c'est la différence entre deux variables. La notion de localisation, puis là, je pourrais vous référer à Cox et Associés, là, qui sont deux professeurs aux États-Unis qui ont fait des analyses là-dessus. La localisation, pour eux, c'est un aire de marché où se croisent différentes situations ou phénomènes socio-économiques. Okay? Et selon cette définition-là, la localisation, ce n'est pas un cas de proximité géographique, mais un équilibre ou une recherche des composantes qui ont une influence dans ce marché-là sur la propriété. Et à ce titre-là, on pourrait dire que Sainte-Foy et Limoilou sont plus distants en termes mathématiques que Saint-Augustin des Morts et Saint-Bruno de Montarville.
Ouais.
Donc, quand tu fais une comparaison, tu veux comparer des pommes avec des pommes, même si la pomme a été cueillie plus loin, c'est pas ça que tu cherches qu'elle ait été cueillie à côté, c'est qu'elle a les mêmes taux de sucre, elle a été dans un environnement qui est similaire. Et donc, pour un évaluateur, puis là, il y a différentes écoles de pensée, là, il y a des discussions qui sont franchement ouvertes là-dessus présentement. Moi, quand je compare un Mercedes, en tant qu'évaluateur agréé, là, je parle, ben, je vais préférer prendre des Mercedes même s'ils sont dans d'autres environnements, dans d'autres géographies, parce que la logique de réflexion de celui qui achète un Mercedes, c'est combien l'autre a payé au Saguenay, combien l'autre a payé à Joliette, à d'autres endroits. Comment que je dirais? Ouais, mais le Kia s'est vendu à tel prix à côté. La seule base de comparabilité, c'est que le terrain vaut probablement à peu près la même chose. Ouais. Mais à part de ça... Tu sais, si un taux de construction est à 200 $ ou un taux résiduel au niveau comparatif de la valeur est à 200 $ puis qu'un Mercedes, puis là, je dis n'importe quoi, là, c'est pour l'exemple, est à 800 $ comment j'essaierais de me réajuster? Tu sais, je vais me réajuster 400 fois par rapport au prix, 400%. Mais je suis mieux d'aller me comparer avec qu'est-ce qui ressemble plus et d'analyser l'effet de mes externalités. En fait, j'ai pas tant que ça à le faire parce que celui qui a construit Mercedes, la concession, celui qui a octroyé des concessions, c'est ça qu'il a fait. Il a dit, dans cet environnement-là, à Laval, je peux en vendre tant de Mercedes. Dans l'autre environnement, je peux en vendre tant. Je vais peut-être le construire plus petit parce que j'ai moins de potentiel de clients, tu sais. Et c'est la même chose pour les pharmacies, c'est la même chose pour les épiceries, c'est la même chose pour un bon nombre de types de propriétés. Il faut comparer des pommes avec des pommes, même si la pomme a été cueillie plus loin.
C'est bien, la phrase est vraiment très, très...
Ça n'image pas le jugement. Elle vient d'un jugement. Où le juge dit justement que c'est très hasardeux de le faire. Il faut, pour le faire, être capable de mesurer les externalités. Moi, j'ai rajouté, même si la pomme a été cueillie.
C'est ça, mais tu sais, il faut briser un peu le plafond de verre, il faut briser un peu les façons de faire, parce que comme tu dis, à la base, c'est toujours la géolocalisation. T'sais, on veut toujours essayer de trouver un comparable qui est au coin de la rue.
C'est idéal.
Parce qu'après ça, sinon, il faut matcher des écosystèmes, comme tu dis, qui peuvent être à 400 km.
C'est souvent impossible. Et je pense que c'était pas possible de le faire avant aussi. Tu sais, il faut comprendre qu'un évaluateur, ça a une obligation de moyens. Ça a un temps donné pour faire un type d'analyse. S'il se met à chercher toutes les IGA de la province avec autre chose que notre base de données, avec ce qui existait avant, c'était pratiquement impossible de le faire. Tu sais, ça aurait pris une analyse de milliers de transactions puis de faire des références.
Tu sais, dans un marché secondaire ou tertiaire comme le tien, pour tes mini entrepôts, ben, tu sais, il n'y aura peut-être pas l'occasion d'aller à Chicoutimi pour aller voir de quoi ça a l'air, puis d'aller voir un peu plus loin à Trois-Rivières, etc., pour venir voir des parts de marché similaires, pour venir comparer. Par contre, votre base de données permet ça.
Là, oui, on peut le faire, mais tu sais, c'est juste depuis janvier 2022. Là, si tu veux chercher tous les mini-entrepôts qui se sont vendus dans la province, tu peux les extraire en dedans de 3 minutes, tes as toutes.
Wow.
Après ça, tu peux segmenter selon la grandeur, le type d'unité. Tu peux faire toutes les segmentations que tu veux. Là, on va arriver avec les externalités. Là, prochainement, nous autres, on est en train d'entrer les données sur... les externalités, la sociodémographie.
Ouais.
Donc, on va aller chercher ça. On a déjà été la chercher auprès des sondages de recensement. Puis là, ben, il reste à définir. En fait, on l'a défini aussi. C'est quoi l'environnement qui a un impact? Donc, c'est quoi la grandeur de l'aire de marché qui a un impact sur ma propriété? Puis ça aussi, Cox et Associés nous ont indiqué comment le faire un peu. En fait, il y a une convention dans le milieu académique que la meilleure façon de définir un aire de marché, c'est par temps de déplacement à partir du point central. Donc, non pas un cercle qu'on ferait alentour d'un point, parce qu'on peut le voir facilement, on va tomber d'un autre bord de rivière, si on fait à vol d'oiseau, puis c'est pas le même environnement dans beaucoup de cas. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est combien ou jusqu'où je me rends à pied en 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, etc. Ou jusqu'où je me rends en auto, 10 minutes, 5, 15 minutes, 20 minutes. Puis là, on détermine, on a une vingtaine d'aires de marché qu'on détermine comme ça. Et il nous reste à mesurer quel est l'âge moyen à l'intérieur de des gens qui habitent à l'intérieur.
Les habitudes de consommation, le type de famille, le nombre d'enfants, etc.
L'âge, etc.
Puis là, vous venez paramétrer ces données-là avec les ventes immobilières, puis ça vient ajuster ou amener un nouveau ratio complémentaire à la data.
Ça vient nous expliquer pourquoi cette vente-là s'est faite à ce prix-là.
Puis là, est-ce que c'est une base de données où est-ce qu'on est obligé d'avoir un doctorat ou une maîtrise en mathématiques ou c'est quand même assez simple pour les users de...
C'est quelque chose qu'on fait déjà. C'est quelque chose que vous, moi, on fait, mais on le fait intuitivement. T'sais, quand on évalue, une épicerie, une pharmacie, on passe et on dit, il y a une pharmacie, ça vend 80% des médicaments qui sont vendus, c'est aux gens de 55 ans et plus. Fait que quand tu arrives dans un quartier où c'est tous des jeunes, ils en consomment moins de médicaments. Si tu arrives à Sillery, par exemple, et que tu vois que c'est toutes des Mercedes ou des Cadillac, tu te dis, OK, ils ont un certain pouvoir d'achat, ces gens-là. Mais aussi, ça peut indiquer, puis là, je fais pas d'âgisme, je fais juste, quelle variable, je donne l'automobile, mais ça peut être d'autres choses, tu sais, si j'ai plus d'aménagement urbain, si je vois des gens qui sont avec des cannes, etc., ben je peux penser, tu sais, je réfléchis à ça, puis j'analyse mon environnement, je l'observe pour comprendre qu'est-ce qu'il y a. Et donc, je dis, le pharmacien, peut-être qu'il vend plus que l'autre qui est situé dans un nouveau développement où c'est juste des enfants. Donc, c'est comme ça qu'on réfléchit tout. T'sais. C'est que d'utiliser une base de données comme ça, ça va juste te permettre de le mesurer. Dans l'aire de marché déterminée de la façon dont on vient de parler, il y a tant de personnes qui gagnent tant, qui ont tel âge, qui ont tant d'enfants, etc. Fait que ça va juste améliorer notre capacité de mesurer l'environnement, à mon avis.
C'est quand même malade, hein?
Oui.
Écoute, pour vrai, là, c'est du contenu qu'on voulait avoir. Puis, tu sais, en tout les débuts d'année, on va avoir ce contenu-là pour nous aider, mais surtout pour nous outiller à avoir les bons outils et les bons comparables pour faire un meilleur travail. Puis tu sais, dans le commercial, dans l'industriel, dans le bureau, il y a très peu de courtiers qui vont faire ces données-là. Puis comme c'est un milieu très restreint, bien, les datas vont rester sensiblement toujours entre leurs mains parce qu'ils vont se connaître entre eux, vont se partager leurs clients à l'interne. Tu sais, il y a peut-être 7 ou 8 courtiers qui fait réellement du bureau temps plein dans la région de Québec. Ben, tu sais, si tu veux avoir des données, il faut que tu passes avec eux pour avoir accès à l'information. Tandis que là, d'avoir des outils externes fait en sorte que un professionnel à l'extérieur du clan va réussir à avoir des bonnes données, des bons paramètres, puis de pouvoir orienter des clients à l'externe aussi. Puis ça, je trouve ça vraiment incroyable.
Ça va être intéressant de voir si ça se réalise de la façon dont tu le penses, mais ça démocratise effectivement un peu les outils, ouais, l'accès à la donnée, comme dans tout le reste de la société.
Ah oui, 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 oui. On a vraiment un boost de ça actuellement, puis c'est incroyable. Les émissions de la Bulle immobilière sont toujours disponibles en podcast sur nos sites web, jean-françois-morin.ca, Vigiquébec, la Bulle immobilière, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et Balados.
La Bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va acheter ton bloc. Airfortin.com, yes!
Talk, rock. Élevez votre marque à votre image.
CJMD. Talk, rock, hip-hop.
L'alternative radio.
Stay tuned, right after this.
Chérie.
Hein?
Chérie.
Quoi?
Regarde ça. Ça a l'air que si tu mets une patte de lièvre au-dessus du foyer de la maison,
hein?
Elle va se vendre 2 fois le prix qu'on a demandé, puis on n'aura même pas besoin d'agent.
OK.
Puis en plus, j'ai vu dans une revue scientifique que si on fait brûler de la sauge dans toutes les chambres, sauf la chambre des maîtres,
OK, ouais,
on va avoir notre première offre d'ici les 48 prochaines heures. C'est pas merveilleux, ça?
C'est extrêmement merveilleux, chérie. Me semble que je t'avais dit d'écouter à la Bulle à CGMD, non?
De retour à la Bulle immobilière.
On est de retour à la Bulle immobilière avec Christian-Pierre Côté, propriétaire de Côté Mercier Conseil Immobilier. C'est bien exact?
Et de CMSD, Côté Mercier, Service de données. Ça dépend quel chapeau tu veux me donner.
Exact, mais aujourd'hui, on parle de données, on parle de data. Pour vrai, le premier segment, c'était incroyable. Seulement pour mettre la table. Puis là, on va parler d'analyse de data. C'est quoi un peu les conditions de marché, les tendances. Puis on veut vous entendre là-dessus parce que vous avez l'opportunité, justement, de voir passer cette donnée-là, d'intégrer cette donnée-là, puis de comprendre la data. Fait que ça, je trouve ça quand même super intéressant. Puis j'aimerais ça qu'on parle, juste faire un review. Tu sais, 2020, 13 mars, pandémie arrive. On est aujourd'hui en 2023, avril 2023. Le marché a changé considérablement, autant la hausse puis autant la baisse. Puis souvent, dans une même période. Là, t'sais, on parle d'une période très courte. Des fois, c'est un mois. Des fois, c'est un trimestre. Des fois, c'était une année. Mais il y a eu quand même des ups et des downs par rapport à ça. De quelle façon que vous, quand vous analysez des données comme ça, vous êtes en mesure de paramétrer ces données-là pour après ça que ça soit des données quand même justes. Parce que, tu sais, on peut avoir une vente qui était dans un creux le mois passé, qui là, le mois d'après, on est en feu. Fait que là, tu sais, la valeur n'est pas nécessairement la même. Comment vous arrivez à paramétrer ça?
C'est une succession de tempêtes. Hein? Moi, ça me fait souvent rire parce que l'immobilier d'investissement, c'est un slow play. Ça se passe pas vite. On est capable d'anticiper. C'est des beaux longs termes, etc. Ben là, non.
Finalement.
Bang! Steve, tout arrête. Il n'y a plus de financement. Oup, l'argent qui est injecté amène des prises de valeur complètement folles.
Ouais.
Après ça, la banque s'en mêle. L'inflation arrive. Il y a une guerre en Ukraine. Les chaînes d'approvisionnement. Moi, ben, j'ai jamais vu ça. Comme plusieurs
comme pas mal tout le monde. Faut être vieux là, pour avoir vu quelque chose comme
on n'est pas habitué en immobilier à ce que ça bouge aussi rapidement. Tu parlais de 2019-2020. Quand on mesure le volume de transactions là, en termes monétaires, là, on était autour de 7 à 9 milliards en 2018-2019. 7 milliards 2018, 9 milliards 2019. 2020, on s'alignait sur, encore plus haut, peut-être 12.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
On a retombé à 7, tu sais, pour les raisons qu'on comprend. Mais même s'il y a eu un clash tout de suite au déclenchement de la pandémie et qui a fait baisser les volumes de transactions de façon importante, ça a repris quand même rapidement. Là, à la fin de l'année, là, on sentait l'engouement. Tu sais, les gouvernements ont tellement mis de cash dans le système. L'immobilier, là, c'est du taux d'intérêt pour beaucoup. Hein, tu sais, ça fait que il y a eu beaucoup de transactions, puis tout le changement, tu sais, que ça a apporté. Tu travaillais plus au bureau, tu travaillais à la maison. Encore maintenant, beaucoup, contrairement à ce que plusieurs prédisaient, « Ah, ça va retourner au bureau. » Peut-être pas tout le monde, finalement. Là, là, ça a stabilisé. Là. Puis les gens qui re-signent des baux, de ce que j'entends des courtiers, c'est hey, « ça veut des plus beaux espaces, mais avec moins de pieds carrés. »
Flexible.
Ça, puis ouais. Ça, tout ça engage un niveau de transaction aussi, parce que si j'avais 20 000 pieds et j'en ai besoin de 10 000, ben, je change d'espace. Il y a des transactions qui ont été en lien avec ça. En 2021, on a atteint 13 milliards de volume de transactions. Fait que ça s'était jamais vu auparavant. Wow. 2022, là, le T4 là, qu'on a closé, là, on est à 18 milliards.
Wow! Puis avant ça, 2017,
9 milliards.
Wow! T'sais, presque trois fois en deux
on
ans.
A augmenté là, de façon démentielle. Puis là, nous autres, on a des indicateurs avancés là, au niveau de la donnée. On regarde tout ce qui est publié, peu importe c'est quoi, au registre foncier quotidiennement. Si je fais la compilation de mes trois premiers mois, là, janvier, février, mars, mon T1 2023, là, je suis en baisse de 30 % par rapport à l'année précédente. Fait que je reviens dans des eaux qui peuvent se comparer à 2020, avant pandémie, là, tu sais, mars.
Exact.
Là, on ne parle pas de construction d'œuvre ou de mise en chantier. On parle d'échange d'immeubles existants.
Oui, puis dans l'immobilier d'investissement. Pas les triplex, pas les unifamiliales.
Fait que on parle commercial, industriel.
Juste commercial, industriel, oui.
Ça veut dire que les gros joueurs depuis deux ans ont fait énormément de mouvements.
Tu as plein de raisons. Des propriétés commerciales dans le retail, là, c'est détenu par un certain type de joueur qui est là pour du long terme, qui est dans un type d'investissement. T'sais. Là, on y a appris que ce n'est pas tout le temps l'achalandage que tu as connu que tu vas avoir dans ton centre commercial. Moi, je me promène. C'est dur à voir dans les centres commerciaux parce qu'ils sont des champions dans mettre des façades avec des montagnes, avec n'importe quoi. Tu as l'impression que c'est une murale. Mais en arrière, il y a du pied carré vacant.
Ouais.
Fait que tu sais, moi, j'essaye de l'observer. Pas même affaire qu'il y a 4-5 ans. Là.
Non, puis surprenamment, si tu parles de ça, il les rénove énormément aussi.
Ben, il faut,
mais en même temps, tu dis, c'est parce qu'ils ont un œil. Ou si tu rénoves à ce point-là, c'est parce que tu sais que tu t'en vas normalement pas trop vers la fin, ou du moins t'essaies de.
T'es quelqu'un qui a beaucoup d'espoir.
Ouais, c'est ça. T'essaies de travailler ça de l'autre sens pour te redonner. C'est ça.
Mais il faut qu'ils repensent ce modèle-là.
Ouais.
Et c'est souvent, là, puis là, dépendamment du type de d'immeuble commercial, c'est souvent des grandes plages de stationnement à ciel ouvert, ce qui correspond moins au type d'urbanisme recherché maintenant, puis à la fonctionnalité des espaces, des espaces qu'on veut. Fait que tu peux avoir un transfert d'intérêt, donc quelqu'un plus du niveau institutionnel qui vend un immeuble à quelqu'un qui va être un redéveloppeur, tu sais, comme toi, là, tu vas le voir, puis tu vas dire, hey, je peux mettre 600 logements là-dessus, puis je vais apporter telle autre affaire, puis je vais mettre du bureau à frais partagés. Tu sais, c'est pas la même dynamique. Fait que tu peux avoir une transition de propriété, un achat-vente, qui est dû à ce type de changement de tendance-là. T'as de l'industriel, tu sais. industriel. On a changé nos façons de consommer. La chaîne de distribution des marchandises a complètement changé en dedans de 3 ans, tu sais.
Ouais.
Avant, tu allais chercher tes espadrilles à telle place. J'étais allé chez... Je n'aimerais pas le magasin, mais j'ai acheté un banc. Puis là, j'étais là, puis moi, ça me tentait pas de le transporter. Là, ma blonde, elle disait, ah oui, on en veut, là, on veut les deux bancs. Moi, j'ai dit, hey, l'après-midi, mais là, dans le char, puis le banc de bébé, c'est ça. Fait que, au final, le gars, il me dit, arrête de te poser des questions. Il dit, on l'a pas. Il dit, on va te le livrer chez vous.
Ouais, parce qu'on
va être rendu
pas
avant toi.
Ben oui, c'est ça. C'est fou.
Mais on va te le shipper. Ça, c'est nouveau quand même, ou c'est pas, peut-être pas nouveau, mais ça a pris beaucoup d'ampleur. Fait que quand tu fais 1 $ de vente en ligne, tu as besoin de 3 fois plus d'espace au niveau industriel.
Ouais.
Fait que tu sais, ça déplace tes inventaires qui étaient dans le retail, dans le commercial.
Ouais. T'es plus dans ton magasin.
Vers l'industriel. Ton inventaire est plus à la même place. Ça demande des centres de données pour traiter toute cette information-là, toute la logistique de distribution. Tu sais, fait que t'as beaucoup de pression de ce côté-là. Là, tu sais, tout est en train de changer. Les taux d'intérêt, nous autres, on faisait 10-15% de notre marché. Nous autres, c'était du résidentiel, 12 logements et plus. Là, je peux t'annoncer que on en fait moins.
Ouais.
Merci à PH Select.
Ouais.
Mais là, à PH Select, j'ai vu hier, je n'ai pas analysé, mais ils ont augmenté le...
les primes.
En fait,
les primes.
C'est pas juste parce que c'est ça. C'est la prime d'assurance de la SCHL de façon large.
Bon, c'est pas si pire. Ils la remettent sur le prêt, mais... Oui,
elle est financée, mais t'as payé pareil.
Financée, mais finalement, ça te coûte, ça paraît à quelque part, tu sais.
Ouais.
Fait que le résidentiel, lui, on a vu que depuis le mois de mars l'année dernière, le nombre de transactions a chuté. Tu sais, fait que c'est plus corrélé avec les taux d'intérêt que le reste. L'industriel, tu peux refiler la facture à ton locataire ou à ton client. Résidentiel, de par...
Plus difficile, tout dépendant des baux, etc. C'est pas mal plus difficile aussi, là. Puis, c'est dans les paramètres aussi. Puis, tu sais, on parlait de banque, de la SCHL, etc. Dans le multilogement, on parle toujours de valeur économique, que la banque va vouloir se mettre une certaine valeur pour protéger son risque. Puis, tu sais, la valeur économique, selon les marchés, peut être différente. Ben, elle sera pas différente. Elle va être différente à valeur marchande, mais pas nécessaire. Tu sais, des fois, dans des marchés, par exemple, tertiaires, la valeur économique va être beaucoup plus haute que la valeur marchande. Dans les marchés, tu sais, secondaires, là, on va avoir quasiment un équivalent entre la valeur économique et la valeur marchande. Puis dans les marchés primaires, tu sais, Québec, Montréal, ben là, la valeur économique va être souvent plus basse parce qu'il y a une pression sur le marché, parce qu'il y a plusieurs investisseurs, puis la valeur marchande va être beaucoup plus haute. Est-ce que c'est des paramètres que, pour vous, vous prenez en considération dans vos paramètres, dans la base de données? Est-ce que les TGA sont pris en compte? Est-ce que c'est...
Je vais te décevoir, là, parce que moi, la valeur économique, je sais absolument pas c'est quoi, et je ne veux pas m'investir là-dedans. Dans l'immobilier d'investissement, là, je comprends que c'est un concept qui a été déterminé parce que on essaye de traduire... le
analyse
ratio de couverture en valeur. Autrement dit, on se sert d'un ratio pré-valeur pour que le client comprenne bien le montant qu'on veut y passer. Puis là, on essaye de baisser la valeur ou de créer une valeur qui est en fonction des paramètres que la banque a décidé. Là.
Okay.
Mais nous autres, on ne parle jamais de ça. On est en ratio de couverture.
Parfait.
La valeur marchande, c'est combien paierait quelqu'un en date d'aujourd'hui pour cet immeuble-là. La banque, elle, va arriver et va dire... Moi, dans ce marché-là, pour plein de raisons, tu sais, moi, je suis la banque X, là, puis j'ai déjà atteint mon quota. J'ai 25 milliards à passer dans l'immobilier au Québec, puis je suis déjà à 24,5 milliards. Fait que moi, mon ratio de couverture, au lieu de faire passer des deals à 1,15, ça va être 1,25. Puis mon amortissement, ça sera pas sur 30 ans, ça va être sur 15 ans ou 18 ans, ou etc. Chaque banque fait de l'analyse de risque et décide le ratio de couverture qu'elle juge qualifié, qu'elle juge nécessaire pour l'argent qu'elle va mettre dans ça.
Ça peut varier aussi selon leur portefeuille, selon leurs objectifs, selon leur performance. Il y a
leur anticipation du risque par rapport à un type d'actif aussi. Moi, je fais pas ça. Moi, ni en mathématiques, ni en évaluation. En évaluation, moi, je donne le prix que quelqu'un va payer en fonction des données de marché, en fonction du marché. La valeur marchande, c'est ça. Des gens qui connaissent ce dont ils parlent, qui sont informés, qui payent un prix juste pour un actif. Que la banque veut le financer à telle hauteur ou telle autre hauteur,
ça leur appartient.
Là-dedans.
Exact, ça leur appartient. Mais le pourquoi j'amenais cette question-là, c'est que les proforma avant pandémie, les proforma pendant la pandémie, puis les multiples proforma pendant la pandémie, parce qu'il y a eu tellement de changements qu'eux autres aussi ont changé. Puis aujourd'hui, on n'a plus la même analyse de risque. Avant la pandémie, je pense que tout le monde incluant les institutions financières, étaient plus flexibles sur leur gestion du risque et en date d'aujourd'hui, ont ajouté des KPI dans leur gestion de risque où ce qui viennent très limiter puis viennent qualifier les investisseurs ou les investissements qu'ils vont faire.
Oui.
Fait que les proforma maintenant, de quelle façon que ça, qu'on les utilise ou qu'on les analyse ou qu'on les utilise?
Bien, en fait, là, il y a plusieurs réponses parce que chaque type d'actif va agit avoir... différemment.
Exact.
Si on regarde dans le résidentiel, tu sais, le résidentiel, tu as tes revenus, tu as tes dépenses. La traduction de tout ça, c'est. La traduction de la valeur, c'est un peu un espoir que tu as à augmenter tes revenus, à continuer d'avoir une clientèle, etc. Avec la réglementation qui va avec ça. T'sais, là, présentement, dans la construction, on en parlait un peu, Kevin, avant, dans la construction, les proforma sont difficiles à arrimer. T'sais, j'arrive à 40 millions de valeurs, mais le cost est à 42. C'est difficile de faire un projet en partant de ces prémices-là. Puis là, les chiffres que je donne, c'est des exemples, là, vous comprenez.
Exact. Mais on sent quand même une réduction du mise en chantier de multilogement. Là, t'sais, dans les articles, dans qu'est-ce qu'on lit, etc., là, tout le monde en parle. Là, t'sais, puis tout le monde le constate que justement, t'sais, il y a un manque de logement, mais les constructeurs sont pas capables de les construire.
Ben, on parlait d'indicateurs avancés. Là. Nous autres, on a une base là, où on suit tous les projets qui sont annoncés au Québec, commercial, industriel, résidentiel. Partout, quand tu annonces de la haute densité, on le traque, puis on mesure ton avancement là-dedans. Okay? Et si je compare mon premier trimestre 2023 avec mon premier trimestre 2022, j'ai 70% de baisse à propos des annonces qui sont faites par les promoteurs multirésidentiels. Wow. Ça veut dire que l'année passée, on disait « Hey, on va construire. Hey, oui, on a un beau projet. » Puis là, on parle le premier trimestre, donc juste avant que les taux commencent à remonter.
Ouais.
Ça le ralentit. Si je compare les annonces des promoteurs premier trimestre cette année, ben, y en a 3 qui disent encore « Hey, moi, je vais construire. Oui. » Mais il y en a 7 qui disent « Rien. »
On va regarder. On va penser.
Puis dans ça, « Je vais construire. » L'appel n'est pas encore là.
Non, ben, c'est ça.
Ça veut dire qu'on statue comme on croit, ou en tout cas qu'on le pense, que c'est d'être dans les plus petits et moyens joueurs qui vont se remettre un petit peu plus sur l'accotement, tandis que les gros qui ont peut-être justement des proformas sur plus long ou qui ont moins d'attentes en termes de rendement ou qui ont plus de cash pour supporter justement que ça coûte 42, ça vaut 40. Est-ce pas grave, dans 20 ans, on va retrouver ça?
T'as raison, ça dépend de l'expectative de déploiement de ces capitaux dans certains cas. Tu sais, il y a d'une certaine manière, un promoteur, c'est là pour promoter, ça a une équipe, ça a, faut que ça le fasse, tu sais, d'une certaine manière. Donc, il y a certains joueurs qui n'ont pas le choix de continuer. Puis, si tu le regardes à long terme, là, des investisseurs qui sont là pour le long terme, ils vont se dire, tu sais, c'est comme timer à la bourse, là, tu sais. Tous les planificateurs financiers vont te dire, arrête de te casser la tête, mets 10 000 par année, puis au bout de l'année, ça va faire du sens. Même si, présentement, c'est plus dur, ou le marché est à la hausse, à la baisse, rentre régulièrement dans le marché. Fait qu'il y a cette façon-là de penser, puis il y a plusieurs gros promoteurs qui continuent. L'autre affaire, c'est que ta sortie, en fait, ton entrée sur le marché, plus ton projet est gros, plus c'est dans le futur. Ouais. Donc, si tu l'as lancé il y a 2 ans, puis que tu arrives présentement, ben, tu ne pouvais pas vraiment le savoir que les taux d'intérêt. Ben, là, c'est discutable. Là. Chacun, il y a des prévisionnistes maintenant qui ont chacun leurs opinions. On se rend compte qu'il y a autant de résultats différents qu'il y a de prévisionnistes. Ben, tu sais, ça dépend de l'expectative. Présentement, c'est sûr que au niveau de l'évaluation, au niveau de l'étude de marché, là, dans le service conseil, c'est difficile de faire fonctionner des projets. Ouais, ça fait depuis mars, en réalité, de l'année dernière, que les projets qu'on nous présente... c'est une généralité. Là. Il y a des promoteurs qui ont, pour telle raison, là, ils ont un contrôle sur le coût, ils ont une opportunité, ils ont un terrain qui était là depuis des années dans leur portefeuille. T'sais, il y a plein de choses. Ouais. C'est une généralité. En général, il y a moins de
puis c'est vrai, ça, par exemple, aussi, là, qu'un promoteur qui va construire un 100, 200 logements par année, tu sais, ils vont souvent avoir beaucoup de terrain en avant d'eux pour planifier leur construction, planifier ça. Puis, tu sais, ça se peut qu'il y ait un terrain qui a acheté il y a 10 ans, qui a dit, bah, tu sais, on fera ça plus tard, mais mathématiquement, en date d'aujourd'hui, ça va être ce terrain-là qui a acheté, tu sais, 10 ans plus tard, que mathématiquement, ça va faire du sens. Puis là, il va le mettre celui-là de l'avant, fait que c'est quand même...
Puis, moi, je trouve que dans ce que tu as dit, c'est surtout que il y en a plusieurs qui n'ont pas le choix de continuer à avancer.
Il y a ça
t'as
aussi.
Une équipe, t'as un momentum, t'as des terrains, et puis là, à un moment donné, ça devient peut-être les taux de rendement interne. Lequel projet est un peu, pas le moins pire, mais ils sont peut-être moins alléchants qu'ils étaient il y a 2-3 ans. On peut pas juste comme...
Il y a moins de marge, il y a moins de marge. Les coûts ont augmenté beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les dernières années. Là, les frais financiers explosent. C'est un gros risque, pareil, là, sur les promoteurs. Ceux-là qui avaient pris un pas de recul déjà l'année dernière, là, nous autres, on a des clients chez nous qui ont dit, garde, ce qui s'en vient, là, il y a
on
des
nuages. Moins,
on part rien, puis on reste liquide. Visiblement, c'était peut-être une bonne stratégie, tu sais. Mais... Souvent, quand t'as... Puis il y a un autre aspect aussi à la médaille. Tu sais, il y a beaucoup de gens fortunés qui investissent dans l'immobilier que c'est une partie de leur portefeuille. Donc, ils rentrent... tu sais, c'est 10 % de leurs investissements. Nous autres, on peut dire, hey, c'est 200 logements par année ou je sais pas quoi. Tu sais, ça fait partie d'une stratégie d'investissement, de déploiement d'investissement. Tu sais, ça veut pas dire que tu arrêtes tout. Puis quand toutes les autres arrêtent, ben là, peut-être que tu es plus capable de négocier tes fournisseurs ou tes sous-traitants aussi. Là. Moi, je pense que cet été, ça va être plus... Il y a des gens qui vont être plus parlables.
On est déjà là.
Okay.
Je le sens peut-être à plus petite échelle, mais toi aussi, tu dois le voir. Des sous-traitants qui rappellent, des gens qui prennent des nouvelles de où est-ce que tu es rendu, si tu as des projets à donner, qui placent des employés à des endroits qu'ils n'ont jamais placés parce qu'il y avait en masse de jobs, en masse de projets dans leur assiette.
Oui, il y en a même qui ont été un peu cavaliers dans les dernières années sur leur prix. Moi, je sais qu'il y en a qui ne seront pas rappelés là, dans certains cas parce qu'on a peut-être profité pendant une certaine période, mais la mémoire va faire son effet. Il va y avoir des bouleversements, là, mais tu sais, jusqu'à quand ça va durer? Les taux d'intérêt vont finir par se replacer. La démographie, ça ment pas. Hein? Il y a une progression démographique au Québec. On n'est pas en Russie. Hein? Donc,
puis l'immigration.
Il y a une demande.
Puis tout ça aussi. Puis oui, l'immigration. Puis c'est un peu là que je veux en venir aussi, là, aux différentes tendances. Là. J'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu, justement, ta perspective des prochaines années, voire mois, les nouvelles tendances qu'on voit de plus en plus s'ajuster pour le multilogement, pour le commercial, pour l'industriel, puis même le développement de terrain. J'aimerais ça pouvoir t'entendre là-dessus. Puis, tu sais, la démographie vient impacter beaucoup le multirésidentiel parce que, tu sais, les bébés-boomers sont partis de leur bungalow, s'en vont en condo, ils arrivent en fin de vie utile comme les matériaux, vont finir...
Tu parles des personnes âgées ou de maisons, là?
Non, des personnes âgées.
Tout ça.
Puis ils vont partir, finalement, tu sais, vont avoir de nouveaux projets, autres qu'ici, puis ça va faire en sorte que ça va laisser des espaces de vacances. Puis, tu sais, le marché de Québec versus Montréal, c'est pas la même chose. Tu sais, l'immigration pousse pas ici à Québec là, versus Montréal.
Elle pousse, on augmente d'un pour cent par année quand même.
OK, quand même, mais il n'y en a pas tant que ça non plus.
Tu as tout le temps un remplacement de l'inventaire qui doit correspondre à peu près à 1 %
OK.
Ça fait que tu as comme une besoin d'augmenter ton 2 % là. Puis ça, c'est très général en urbanisme. Là. Mais on a combien d'heures là, pour ta question?
Ça à peu près une dizaine de minutes.
Je voulais rajouter une sous-question. Imagine à sa grosse question, parce que tu parles de redéveloppement, mais tout ce qu'on regarde, le commercial, bureau, qui se redéveloppe en résidentiel, entre autres, beaucoup, ça commence
à
Toronto.
Ça se redéveloppe pas encore.
Ben, c'est ça. Ou en tout cas, il y a des gros joueurs qui ont commencé, Toronto, Vancouver.
Il y a Page Jaune qui a été transformé par la FTQ.
Okay.
Historiquement, là, c'est très difficile à faire.
Ouais.
Maintenant, là, je le sais, tout le monde regarde ça. Il y a des immeubles de classe B, C, C-. Tu te dis, hey, commence à être vide pas mal. Si tu es central, s'il y a une demande dans ton secteur.
Ouais.
Mais mettons qu'on classe ça, là, on commence par le multirésidentiel. Okay? Le multirésidentiel, on a une pression à la hausse. La démographie fait son effet, le remplacement, comme on parlait. Les gens ont besoin d'espace pour toutes sortes de raisons. Présentement, ce qu'on vient de dire, c'est que c'était difficile de construire. Donc, il devrait y avoir une pression sur les prix. Puis là, moi, je ne parle pas de maison, là, ça, c'est une autre affaire. Ben, c'est quelque chose que je ne connais pas beaucoup. Mais dans le multirésidentiel, là, dans l'immeuble haute densité, là, ben, on a un inventaire, on a un parc existant qui a une pression déjà. T'sais, on a les taux de vacances sont nuls pratiquement. Là. Puis on construit plus de neuf. Qu'est-ce que ça va faire? Des gars qui font du redéveloppement vont peut-être être avantagés dans certaines circonstances. T'sais, t'as une pression. Il devrait y avoir une pression à la hausse sur les prix. Est-ce qu'elle a commencé? Oui, un peu, mais l'effet de ne plus construire, il n'est pas immédiat.
Non.
Il est si tu ne mets pas de pelle sur le terrain ou si tu ne lances pas ton projet cet été, c'est 12 à 24 mois avant d'avoir la livraison. Puis là, ben, vu qu'il y a moins de livraison dans un an, deux ans, ben là, ta pression va peut-être être plus là. Donc, il devrait y avoir un effet bénéfique pour les propriétés existantes dans la haute densité. Le bureau, effectivement, tu sais, puis là, moi, j'ai donné des conférences où on m'a dit « Tu parles pas de ça. Tu parles pas de ça, là. C'est tous des propriétaires de bureaux dans la salle. Dis-le pas qu'il va avoir de la vacance. »
Ici, mais, tu peux
dire. OK, on est entre nous. On est entre nous, parfait. Mais... Pour pas le dire, j'utilisais... Il y a une prof à l'Université de Montréal, si je me souviens bien, là, Mme Sabat. Elle disait déjà, à une certaine époque, que d'après ses connaissances, parce qu'elle étudiait le phénomène du télétravail déjà avant, elle avançait des chiffres de 25-30% de vacances dans l'immeuble à bureau. Okay? Là, on est à, je sais pas, au moins 15-20%, dépendamment où est-ce qu'on est au Québec. Là. Ben, ça devrait continuer. Les beaux... C'est pas des beaux courts termes. Puis c'était pas l'année passée puis l'autre année d'avant qu'on prenait des décisions parce que on savait pas dans quelle zone on naviguait. Est-ce que mes employés vont revenir? Est-ce qu'ils reviendront jamais? Tout le monde avait cette théorie.
Les beaux de 5 ans, tu sais, ils ont été signés aussi en 2018. Puis on est en 2023. Puis là, on fait comme hop, là, tu sais, on n'a pas besoin de tout ça. On va prendre la moitié, ouais. On va faire des espaces de télétravail ouverts, on va jouer avec l'agenda de nos employés, où ce que toi, tu travailles le lundi, toi, tu travailles le mardi, puis vous allez jouer avec la chaise musicale.
Mais
tu
n'as pas besoin nécessairement de moins d'espace non plus. Tu ne le savais pas l'année passée.
Exact.
D'avant. Comment ça va finir tout ça? Là, les choses commencent à se replacer un peu. On peut le voir un peu, là, tu sais. Puis là, ça dépend du type, tu sais. Il n'y aura pas tout un, tout l'autre. Ouais. Quand tu es comptable et que tu travailles mieux seul, peut-être que tu as moins besoin d'aller au bureau. Quoique, ça dépend de la philosophie de l'entreprise. Il y a des entreprises en comptabilité, ils ont dit 100% au bureau. Bon.
Exact.
Dans des milieux créatifs, marketing, comment tu vas faire pour être. Tu vas dépérir comme une fleur qui fane au soleil. T'sais, ça va être. Tu as besoin de contact avec les autres.
Ben, c'est ça. Demeure plus humain, c'est ça aussi. Là. On est des gens de contact, on veut voir des gens.
Ça dépend.
Pour plusieurs.
Moi, oui. Mais moi, là, je ne retourne pas au bureau. Je fais de la programmation. T'sais. J'y vais pas au bureau. Mais j'ai besoin de relations avec les autres, sauf qu'elle se passe moins au bureau maintenant. Là. Elle se passe beaucoup sur Teams, par exemple. Sur Teams, ça, je suis pas pire.
Puis par exemple, l'industriel, puis tu sais, on n'a plus de pieds carrés nécessairement disponibles beaucoup sur le terrain pour la construction industrielle. La Ville de Québec n'a pas nécessairement l'ouverture à vouloir couper un arbre pour agrandir le parc industriel. Tu as des privés comme ImmoStar qui achètent des terres pour pouvoir redévelopper à l'interne leur projet et ou peut-être à venir. Fait que tu sais, il y a quand même plusieurs éléments. Puis tu sais, une des choses qui, moi, m'intéresse, c'est sachant que le pied carré se agrandira pas, de quelle façon qu'on est capable de redensifier les parcs industriels déjà existants ici dans la grande région de Québec. Parce qu'à Montréal, on le voit du 4-5 étages.
Les gens le voient pas, mais t'as les bras dans les airs, fait que t'as déjà la réponse un peu, hein?
Oui, ça va être la haute.
Tu peux pas y aller horizontalement.
Ouais.
Mais, tu sais, puis là-dessus, oui, tout est en train de changer. Mais il faut pas oublier une affaire, c'est que faut pas mesurer nos besoins à partir de la dernière année. Parce que la dernière année, c'était une économie qui était, surdimensionnée par rapport à ce qu'elle va peut-être être. T'sais, moi, je dis souvent, la pénurie de main-d'œuvre, c'est bien beau quand tu as besoin de 8 personnes pour faire. Parce que tu as de la demande, mais quand tu n'en as plus besoin de 4, ben peut-être que tu as moins de pénurie de main-d'œuvre. Fait qu'il faut que tu mesures ça à long terme. Mais tu as raison, la demande au niveau industriel, elle est. En fait, l'offre au niveau industriel, elle est restreinte par la disponibilité d'espace. Ce qu'on faisait avant, tu sais, au Québec, c'est grand, on a de l'espace en masse, on enlève une terre agricole. En fait, on met du béton là-dessus, puis on fait des entrepôts. Maintenant, c'est moins à la mode
de
faire ça. Les gens qui sont dans l'agriculture, ils nous rappellent avec raison. Hey, quand la Chine a tout fermé, là, quand les bateaux ont arrêté de se promener, là.
Sécurité, tu voulais ton pain, hein?
Sécurité alimentaire, mon ami. Oh, t'as raison. La guerre en Ukraine, là, si on parle de pain, il faut faire attention.
Puis la pression sur les prix, parce que quand t'enlèves l'agricole, nécessairement, ça coûte plus cher à l'entrée pour les agriculteurs pour acquérir le terrain, donc le beurre, donc tout le reste, on leur paye.
Cette loi-là est super importante au Québec, protéger nos terres agricoles. Puis en même temps aussi, on parlait d'avoir besoin de plus de logements. Tu sais, il faut aussi libérer des terrains. Puis comme on l'a toujours fait, c'est assez facile, on rouvre une terre agricole encore là, puis on met des rues, puis on construit du bungalow, puis à l'infini. Donc... Il y a toujours une pression là-dessus. Maintenant, pour l'industriel, il faut mesurer exactement les besoins. Quels sont nos avantages aussi d'avoir quel type de commerce dans nos parcs industriels? T'sais, pis, mais pour la distribution, là, ben moi, ça, 100, 200 pieds de haut, les technologies, les robots, ouais, etc., peut-être que c'est une solution d'avenir plus...
Et tu sais, moi, je pense que les municipalités, il va falloir qu'ils rouvrent aussi leurs orientations. Parce que, tu sais, souvent, ils vont dire, tu as un bâtiment, c'est un seul usage par bâtiment. Puis, tu sais, on voit ça dans certaines municipalités qui vont contraindre beaucoup les espaces industriels pour pas faire de mixité à l'intérieur de leur industriel. Puis, pourtant, ça serait l'avantage de plusieurs, là.
Bien, on a fait quelques études là-dessus, nous autres, des promoteurs qui, le zonage en place ne permettait pas de faire ce qui, eux, trouvaient le plus logique. Puis, quand on arrive avec une analyse de besoins de la communauté par rapport aux fonctions qui peuvent être mises en place dans différents environnements, sérieusement, j'avoue qu'on a une facilité. Ça lui prend des chiffres, tu sais. Ça lui prend une raison, une explication, une logique démontrée pour pouvoir être capable d'aller vers ce que les promoteurs leur demandent. Puis, dans ça, il y a peut-être des demandes farfelues des fois. C'est que, plusieurs affaires qui arrivent en ligne.
Là, maintenant, tu sais, la décision se prend plus par un seul homme. Il y a un conseil de ville. Maintenant, le gouvernement vient s'ingérer aussi sur le fonctionnement des approbations de projets, de ventes, de terrains, etc. Fait que, tu sais, ça devient beaucoup plus complexe que juste...
Mais il faut qu'il y ait de l'agilité politique.
Oui, définitivement.
Municipale pour justement
plus
permettre...
Plus tu mets de contraintes, plus tu augmentes le prix. En économie, plus c'est contraignant, plus ça coûte cher. Tu sais, puis moi, j'observe l'actualité, là, comme tout le monde, puis je comprends pas pourquoi on s'en va vers plus de réglementation. Tu sais, le logement abordable, là, c'est... En tout cas, je suis pas économiste, mais tu rajoutes des frais, tu rajoutes des frais, tu rajoutes des frais. Est-ce que c'est à cause de ça que ça devient de moins en moins abordable? Puis je pense pas qu'on devrait faire un développement incontrôlé, mais... Le principe d'offre et de demande, tu sais, je pense à Montréal, entre autres, là, quand tu rentres sur le plateau, là, c'est du 2-3 étages. Permets 6 étages partout, puis tu vas augmenter la capacité de construire de tout le monde. Puis là, ça va être... Il pourrait y avoir un effet de masque. Hey, je rajoute un étage par-dessus le mien, deux étages.
Il y a une liquidité, une création de valeur qui s'est faite sur les terrains, justement, qui est disponible pour redévelopper, etc. Puis écoute, pour vrai, je pense que tu l'as dit, il y avait pour plusieurs heures, puis je pense que c'est le moment où c'est le moment où on va faire une entrevue numéro 2. On aura vraiment pas le choix. Christian-Pierre, pour vrai, c'est un réel plaisir de t'avoir reçu. Je te remercie infiniment. Si on veut avoir plus d'informations sur vos solutions, vos services, à quel endroit qu'on peut avoir accès?
Sur le web. Côté Mercier, conseil immobilier, ou côté Mercier, service de données, dépendamment des intérêts. Au niveau évaluation, c'est Marc-André qui est en charge avec Emmanuel de ce volet-là. Donc, ils peuvent évaluer partout en province. Nous autres, la spécificité de nos services, c'est que tu as le même rapport que tu sois en Beauce, sur la Côte-Nord ou en Abitibi. Et les services de crédit, tu sais, à Banque Royale, ben, ils sont habitués de travailler avec nos rapports. On est accrédité dans toutes les institutions financières et coté pour faire... de la résidence de personnes âgées, du concessionnaire automobile.
Pour tous les types d'usages.
Pour tous les types d'usages, nous autres, on est cotés pour faire ça parce qu'il y a des évaluateurs qui vont être plus cantonnés dans un type d'actif. Mais nous autres, on ne fait pas de Plex, mais on fait Plex 12 et plus.
12 et plus, oui.
Mais on ne fait pas d'unifamilial, donc on est spécialisé dans ce type d'actif-là. Puis on le fait de façon uniforme à la grandeur de la province.
Vraiment cool. Moi, j'ai vraiment déjà hâte d'avoir mon premier rapport là, sur les prochains projets, sur justement des projets de développement. Je trouve ça incroyable. Merci beaucoup, Christian-Pierre, d'avoir été présent avec nous. La Bulle immobilière est diffusée tous les samedis de 11h à midi, juste avant Zone parallèle et juste après La Sauce. Bon après-midi tout le monde, bye bye.
La Bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com, yes!
C'est JMD.
Chemin Craig, Saint-Nicolas.
La seule station hip-hop au Québec.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes. Lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes.